Il est 6h48 sur France Inter.
Le 5-7, Catherine Boulet, Éric Delvaux sur France Inter.
Et donc rebonjour Raphaël Garrido, porte-parole de la France des Insoumises. Samedi Raquel Garrido, j'ai dit autre chose, Raquel Garrido.
Et c'est la France des Insoumis.
Oui, la France Insoumise.
C'est bien, c'est joli aussi, la France des Insoumis.
Bah, c'est aussi comme ça que vous en parlez parfois. Samedi prochain, Jean-Luc Mélenchon va lancer la campagne des législatives au nom des Insoumis, justement. D'abord, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va se présenter lui-même à la députation, ou est-ce qu'il sera le fer de lance, le porte-parole, l'icône?
Je ne sais pas s'il se présentera lui-même dans une circonscription. Je pense que l'essentiel, c'est tout de même qu'il soit, comme vous le disiez, le fer de lance de toute la campagne législative, c'est-à-dire des 577 candidats de la France Insoumise, car toutes les ambitions sont permises, en réalité, compte tenu de la complexité du vote qui s'est exprimé hier. C'est évident que les personnes sont allées voter contre Marine Le Pen. Bon, c'est bien, c'est formidable déjà, ça montre que ça existe en France, cette volonté de battre le Front National. Mais ça ne suffit pas à faire, tous les commentateurs d'ailleurs l'ont remarqué, à faire une adhésion au projet d'Emmanuel Macron, ce qui le rend, à mon avis, fébrile et qui le conduit à vouloir passer en force, notamment avec les ordonnances. La difficulté des ordonnances, c'est qu'il faut quand même qu'elles soient approuvées par le Parlement. L'article 38 de la Constitution qui les autorise demande une autorisation, une habilitation. Donc, ce que va demander Emmanuel Macron maintenant aux Français, après avoir demandé donc un vote Marine Le Pen, c'est une assemblée godillotte. Et je ne suis pas du tout certaine que les Français soient aujourd'hui volontaires pour avoir à nouveau, comme ils l'ont eu sous Hollande, une Assemblée nationale godillotte. Et c'est donc pour cela que les candidats de la France Insoumise et leur programme, qui est très cohérent, l'avenir en commun avec ses aspects de combat pour la 6e République, par exemple. Je souligne juste qu'une loi d'initiative citoyenne permet à 185 députés et 4,75 millions de signatures de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée la question de la 6e République par la convocation d'une Assemblée constituante. Donc tous ces combats sont à l'ordre du jour, il faudra les mener.
Et pourquoi n'a-t-il pas été possible de trouver jusqu'ici un accord, une ambition commune avec les communistes entre la France Insoumise dans la perspective des législatives?
Parce que la volonté du Parti communiste, dans le fond, c'est de faire élire des candidats communistes sur le dos d'un mouvement qui est un mouvement citoyen, la France Insoumise, qui a postulé plus de contrôle citoyen, plus d'éthique en politique. Et ce mouvement n'est pas là pour être récupéré par des partis quels qu'ils soient.
Bah, ça veut donc dire qu'il y aura des candidats communistes, des candidats face à des candidats de la France Insoumise, et qu'au final, ça risque de faire des confrontations perdantes pour chacun.
D'abord, on a nous, à la France Insoumise, fait des propositions pour essayer d'éviter cela. Mais en définitive, moi, je veux souligner qu'il ne faut pas non plus changer une méthode qui gagne. Nous avons fait cette campagne, magnifique campagne de Jean-Luc Mélenchon du premier tour, qui a réuni 7 millions de voix, avec ce mouvement qui était hors les partis. Donc je ne vois pas pourquoi on changerait cette méthode qui a montré son efficacité.
Les
anciens partis, quand même, ont été rejetés par les
Français
au premier tour.
Les communistes vous reprochent à la France Insoumise de pratiquer la politique de la terre brûlée. C'est un peu une façon cavalière de remercier un parti qui a tout de même favorisé aussi l'émergence de votre candidat.
Non, mais on n'a pas de remerciements à faire. Ça, c'est de la politique à l'ancienne. C'est passe-moi le sel, je passe le poivre, et ainsi de suite. Ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de combination entre la France Insoumise et une organisation politique quelle qu'elle soit.
Quel est votre objectif aux législatives? Combien de députés la France Insoumise à l'Assemblée nationale?
La majorité.
C'est-à-dire
nous avons
combien
la possibilité. 577 divisé par 2 plus 1.
Non, mais de manière réaliste.
Mais ce que je dis est réaliste, parce que vous avez d'abord, sur le papier, nous avons dépassé les 12,5% des inscrits dans plus de 400 circonscriptions. Et même si, évidemment, on peut compter sur une participation moindre lors de législatives que lors de la présidentielle. Et encore que, je pense que l'enjeu va être fort à cette législative. Et je pense que tout le monde va avoir à cœur à faire venir les Français à cette élection, ce qui va être différent des autres années. À commencer par Emmanuel Macron, qui va mettre de l'enjeu dans cette élection pour la raison inverse que je viens de dire. C'est-à-dire, lui, il va dire, donnez-moi une majorité. Bon, cette majorité godillotte. Donc, peut-être que finalement, il y aura aussi beaucoup de participation à l'élection législative. législatives, ce qui donne à la France insoumise la possibilité de se qualifier au deuxième tour dans des centaines et des centaines de circonscriptions, car je rappelle qu'aux législatives, il n'y a pas que deux personnes qui peuvent aller au second tour, mais toutes celles qui dépassent 12,5% des inscrits.
Et avec quel candidat vous irez? Quel profil? Y a-t-il d'abord des têtes connues qui représenteront la France insoumise aux législatives?
Alors, ce sont essentiellement des personnes qui se sont engagées dans le mouvement de la France insoumise, souvent pour la première fois, des personnes qui n'ont pas d'engagement dans des partis politiques, qui n'ont pas, certainement pas de carrière en politique, mais ça c'était le profil non seulement de, on va dire, des 500, mais c'était même le profil de la direction et des porte-paroles. C'est mon cas, par exemple, moi je ne suis pas élue, le cas de Alexis Corbière qui est prof en lycée pro, Charlotte Girard qui est prof de droit, Emmanuel Bompard qui est mathématicien dans une start-up à Toulouse, et on a d'ailleurs, là, on est en train de gérer au quotidien le fait de reprendre le travail et de continuer à faire vivre ce mouvement dont on est absolument fiers. On est très fiers d'avoir fait ce que nous avons fait et nous continuerons. On est fiers aussi de ce profil de gens normaux, quoi.
Raquel Garrido, maintenant qu'il ne s'agit plus de donner de consignes de vote ou d'influencer vos partisans, est-ce que vous êtes capable de dire ce matin si vous vous êtes déplacé pour mettre un bulletin dans l'urne et lequel hier?
Ah non, je ne vous le dirai pas parce que d'abord je me suis déplacée, oui, ça je l'avais déjà dit avant que j'irais. Je suis allée voter.
Pas d'abstention.
Non, voilà, je suis allée voter. Moi, je suis partisane du vote obligatoire et de la prise en compte du vote blanc et nul dans le suffrage exprimé. Je pense que d'ailleurs hier soir, c'est un cas d'école, ça a montré la nécessité absolue de mettre en place cette mesure.
Il me semble avoir entendu Alexis Corbière hier dire qu'il avait voté pour Emmanuel Macron.
Ça m'étonnerait qu'il vous ait dit cela, mais bon, je n'ai pas vu.
Pas moi, mais je l'ai entendu à la télé, me semble-t-il. Bon, on vérifiera.
Écoutez, moi, j'ai pas écouté Alexis Corbière hier soir sur les plateaux, personne n'a rapporté cette information. Non. Mais en tout cas, moi, je souhaite pas dire ce que j'ai fait parce que il me semble que les personnes qui se sont abstenues et les personnes qui ont voté blanc et nul et les personnes qui ont voté Macron par défaut, toutes ces personnes ont combattu le Front National à leur manière et le résultat est là. De toute façon, si les insoumis, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon avaient voté Marine Le Pen, elle serait élue. Donc finalement, tout cela a contribué à montrer un visage de la France qui n'est pas celui qu'incarne Marine Le Pen et c'est une bonne chose pour la suite.
Hier soir, on a encore senti Jean-Luc Mélenchon très très virulent, notamment à l'égard du pouvoir sortant, qu'il a qualifié de lamentable, le plus lamentable de la Ve République. Est-ce que le terme lamentable était approprié pour faire le bilan du quinquennat Hollande?
Oui, j'ai remarqué personne qui ait contesté cette analyse.
On avait le sentiment aussi qu'il n'avait toujours pas digéré hier soir les 600 000 voix qui ont fait défaut à votre mouvement. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon?
C'est pas une question de pas digérer, c'est une question de marquer justement la courte victoire des autres et du coup la possibilité de victoire en juin. Tout n'est pas perdu, voilà. Ça, on n'est pas loin derrière, on est à touche-touche et puisque nous sommes à touche-touche, nous avec notre programme Avenir en commun qui est un programme cohérent qui a été beaucoup diffusé et discuté pendant la présidentielle, ça c'est notre point d'appui, je crois, l'Avenir en commun qui est un best-seller, qui a des éléments très fournis sur la question écologique, sur la question sociale. Toutes ces choses-là, elles ont été mises dans le débat pendant la présidentielle et nos candidats, ils ont d'abord et avant tout la force de venir à la candidature avec un programme, ce qui n'est pas le cas des autres, je le rappelle.
Merci Raquel Garrido, donc porte-parole de la France insoumise. Merci d'être venue ce matin.
Merci à vous.
Dans les locaux de France Inter.